20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Après nous avoir fait découvrir l'année dernière son fascinant cycle pour piano inspiré par Dante, Célia Onetto Ben Saïd poursuit son exploration de l'œuvre de Marie-Jaël au disque et nous livre aujourd'hui sa lecture de son premier concerto, mise en regard avec la musique de Liszt, dont la compositrice française était très proche. C'est ce que nous allons évoquer justement ce soir avec Célia Onetto Ben Saïd, qui est notre invitée. Et cela avant de retrouver, comme tous les jeudis, Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix. Emmanuel Giuliani qui nous offrira ce soir une escapade en Suède. Compositeurs et virtuos, ce sont des figures incarnant la liberté, le dépassement de soi et un esprit avant-gardiste. Ainsi écrit Célia Onetto Ben Saïd à propos de Liszt et de Marie-Jaël, qu'elle a choisi de mettre en regard dans son nouvel album, sorti chez Nomad Music, enregistré avec Deborah Wallman et l'Orchestre Avignon Provence. Célia Onetto Ben Saïd qui est notre invitée ce soir, bonsoir.
Bonsoir Laure Maison.
Alors c'est vrai que vous semblez très libre quand vous jouez cette musique, musique de Liszt et de Marie-Jaël. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous jouez ces pages qui sont virtuoses, qui nous emportent véritablement, de pouvoir en même temps lâcher prise, de pouvoir aller très loin, de s'envoler, j'ai presque envie de dire. On a l'impression que vous vous envolez parfois.
c'est un peu ma quête en tout cas. C'est du répertoire qui est effectivement très très virtuose et que du coup on passe beaucoup de temps à travailler. Et puis une fois qu'on le digère, eh bien on peut se laisser aller, se laisser emporter dans ce tourbillon de notes qui virevoltent, qui forment pour moi un peu un absolu de piano, parce qu'il y a cette gourmandise de toutes ces notes qui craquellent sous nos doigts et puis de ces grands thèmes qui se dégagent, même parfois de manière polyphonique. Donc, et puis je ne parle même pas de l'orchestration, avec l'aspect de l'orchestre qui va soit nous répondre, soit venir parfois être un peu en combat avec le piano. Donc oui, clairement, moi j'ai ma quête, c'est clairement de me laisser aller.
Alors vous avez choisi tout naturellement de mettre en regard ces deux compositeurs qui se connaissaient, qui s'appréciaient mutuellement, Liszt et Marie-Jaël. Marie-Jaël, elle a été proche de Liszt, elle a été sa secrétaire, elle a été surtout son interprète. Et quand elle jouait la musique de Liszt, Marie-Jaël, elle se permettait beaucoup de liberté, elle se sentait libre justement, elle le dit elle-même.
Elle le dit, elle dit que justement ces musiques virtuoses, comme le sont souvent les pages que Liszt a écrites pour le piano, elles vont trouver leur saveur quand l'interprète va venir y rajouter son grain de sel, sa propre voix, sa liberté. C'est vraiment des musiques qui sont faites pour laisser de la place à l'interprète qui va venir rajouter un grain de création sur la création déjà couchée sur le papier. C'est vrai que finalement, il y a peu de compositeurs ou de compositrices qui nous ont laissé un petit peu cette invitation à la liberté face à un texte écrit. Surtout aujourd'hui, on est, je dirais, à l'ère de lourds textes, du respect. Il y a un côté très sacré aujourd'hui de la musique classique et nous interprètes notre rapport à ça avec beaucoup de respect. Alors évidemment, ça a beaucoup de qualité. Et néanmoins, je pense qu'il ne faut pas oublier que ces musiques, il faut qu'elles soient vivantes. Il faut que quand elles sont sous les doigts de X ou de Y, eh bien, elles ne se ressemblent pas. Enfin, je crois que sinon, ce serait un petit peu ennuyeux. Donc, Marie-Jaël m'a invitée à ça en parlant de l'interprétation de Liszt, comment elle pensait qu'il fallait l'interpréter. Et j'essaye aussi de l'appliquer à la musique de Marie-Jaël en tant qu'interprète, de trouver ma liberté, de trouver ma voix. Donc ça va se jouer dans comment on va timbrer les choses, quel tempi on va prendre, quelle élasticité dans les tempi on va trouver aussi pour ne pas être figé. Voilà.
Alors Liszt appréciait beaucoup Marie-Jaël. Qu'est-ce qu'il aimait chez elle, Célia Onetto Ben Saïd? Il aimait sa liberté justement?
Je pense qu'il admirait beaucoup sa liberté, d'autant plus que Marie-Jaël était une femme au 19e siècle et que trouver sa liberté à ce moment-là, c'était d'autant plus une quête difficile. Et je pense qu'elle était très singulière dans ça. Et je pense qu'il admirait son caractère. De ce que je lis de Marie-Jaël, c'est un caractère extrêmement passionné, presque à l'extrême, très feu. Évidemment, je pense que Liszt était séduit par ça. Et puis, bien sûr, il y a la virtuose que Marie-Jaël était. C'est-à-dire que pour Liszt, c'était à la fois une collègue avec laquelle il pouvait échanger d'égal à égal, puisqu'il était, je pense, pas du tout misogyne. Et en plus, c'était une virtuose qui allait faire rayonner son œuvre de compositeur, puisque Liszt, évidemment, jouait ses œuvres, mais il avait besoin d'autres ambassadeurs. Et Marie-Jaël a été l'une des premières à jouer l'intégrale de Liszt au piano. Donc, vraiment, elle connaissait l'œuvre du grand maître, comme on dit, comme peu de gens.
Quelques notes de la troisième Méphistovalse de Liszt sous les doigts de Célia Onetto Ben Saïd, notre invitée ce soir sur Radio Classique, une œuvre dédiée à Marie-Jaël. Marie-Jaël, dont vous êtes déjà, Célia, depuis quelques années, une ambassadrice passionnée, engagée. Outre Liszt, les compositeurs de son temps, les autres grandes figures de son temps, est-ce qu'il l'a respectée, est-ce qu'il l'admirait aussi, Marie-Jaël?
Alors, bien sûr, on ne peut pas parler de Marie-Jaël sans citer Liszt, ça évidemment. Mais Saint-Saëns aussi était très très important. D'ailleurs, Saint-Saëns lui a dédié son premier concerto pour piano et Marie-Jaël a dédié son premier concerto pour piano à Saint-Saëns. Donc Camille Saint-Saëns qui était en vérité son professeur. Elle a été aussi l'élève de César Franck et puis elle a été admise à la Société des auteurs-compositeurs sur proposition de Gabriel Fauré. Donc finalement, beaucoup de grandes figures de cette fin 19e siècle savaient qui était Marie-Jaël, l'avaient identifiée. Et puis, parmi les compositeurs étrangers, Brahms connaissait la Jaël, puisque c'est un peu comme la Callas. Hein. On disait la Jaël. Et il disait beaucoup de
c'est
bien.
C'était la diva du piano.
C'était un peu je pense que c'était un peu la Martha Argerich de l'époque, hein, pour le côté très virtuose et puis impétueux. Et donc voilà, donc en fait, elle était connue comme le loup blanc. Pourtant, elle ne venait pas du tout du milieu. Hein. Marie-Jaël, elle vient d'une famille alsacienne de paysans. Donc vraiment, c'est aussi ça qui est assez admirable. C'est cette femme qui ne vient pas du tout du milieu ni bourgeois ni parisien, qui vient s'installer à Paris et qui va être admiré dans la bourgeoisie et l'intelligentsia de la musique classique.
Alors, quand on vous écoute, Célia Netto-Bensaid, jouer la musique de Marie-Jaël, en l'occurrence ici son premier concerto pour piano, on a l'impression de percevoir à travers cette musique une femme d'un fort tempérament. Vous évoquiez Martha Argerich notamment. Vous avez amené avec vous un livre qui raconte justement la vie de Marie-Jaël. Elle se décrit d'ailleurs elle-même aussi dans ce livre.
J'avais envie de lire un petit extrait de ses mots à elle. En plus, c'est des mots qu'elle a écrits en 1877, l'année où elle a composé justement ce premier concerto pour piano. Elle écrit « Je suis un mauvais garçon. Je ne vous écris pas et je vous aime si fort. Je travaille, je travaille, je travaille et je me porte à merveille. Mais il ne faut pas le dire trop haut. Vous savez, je ne suis plus du tout la Marie que vous avez aimée, qui cousait, qui parlait. Je suis un être neuf, tout neuf, qui ne fait qu'écrire et plonger en soi-même. » Voilà, ça dit quelque chose. Et d'ailleurs, qui était-elle? Évidemment, je ne l'ai pas connue, j'aurais adoré. Je pense que c'était quelqu'un qui, effectivement, a livré beaucoup de temps de sa vie, consacré beaucoup de temps de sa vie à la musique. Le piano était pour elle un moyen, pas une fin. C'était vraiment la musique qui la passionnait. Et d'ailleurs, dans cet ouvrage qui s'appelle « Je suis un mauvais garçon, journal d'une exploratrice des rythmes et des sons », Marie-Jaël, on comprend que, par exemple, elle n'a pas accordé beaucoup de temps à l'amour dans sa vie. Elle a été épouse de Alfred Jaël, qui était de 15 ans son aîné, qui est décédé assez jeune. Donc elle s'est retrouvée veuve à 35 ans et finalement, après, il n'y a plus d'histoire d'amour. L'amour, c'était la musique. Elle a consacré toute son énergie à ça, que ce soit la musique des autres. Elle encourageait aussi des jeunes pianistes et des jeunes compositeurs. Donc elle enseignait. Et puis elle a été la secrétaire de Liszt. Et puis elle voyageait pour ses tournées de concerts. Et puis elle composait. Et puis elle a fait beaucoup de travaux de recherche sur le toucher en lien avec des médecins, pour voir les capacités kinesthésiques de la main. Donc vraiment, en fait, je pense que tout ça la nourrissait et la comblait. Donc voilà, elle se satisfaisait de toute cette richesse intellectuelle.
Voilà, la musique de Marie-Jaël, une musique passionnée, mais également une musique pleine de tendresse et de douceur.
Thank you.
L'adagio du premier concerto pour piano de Marie-Jaël par Célia Onetto-Bensaïd et l'Orchestre National Avignon-Provence dirigé par Déborah Valmand. Un nouvel extrait de ce magnifique album qui vient de paraître chez Nomad Music et qu'on l'on évoque ce soir avec Célia Onetto-Bensaïd. Alors Marie-Jaël, elle savait se montrer particulièrement lyrique. C'était aussi un volcan, pour reprendre un mot que vous employez à son sujet. Marie-Jaël, que vous avez enregistré avec Déborah Valmand, qui est comme vous très engagée, très passionnée par ce répertoire de compositrice. C'était comme une évidence que d'enregistrer avec elle. En tout cas, elle vous a suivi avec autant de passion dans ce projet.
Ouais, c'était vraiment une bénédiction de rencontrer Déborah à ce moment-là de mon parcours. On a effectivement toutes les deux cette même gourmandise, cette même appétence pour inhumer, si j'ose dire, des partitions de compositrices qu'on ne jouait plus, et pas pour des bonnes raisons. Effectivement, on s'est rencontrés sur ce premier concerto de Marie-Jaël, qu'on a joué plusieurs fois ensemble avant de l'enregistrer. Et puis Déborah et moi, ce qui a été super agréable, c'est qu'elle a eu un rapport vraiment de collaboration sur ses textes, que ce soit Marie-Jaël ou Liszt, où on a été en discussion sur les choix qu'on faisait. Il n'y a pas eu un rapport d'autorité un petit peu à l'ancienne, malsain. C'est vraiment une chef qui est très à l'écoute du soliste avec lequel elle travaille, en l'occurrence c'était moi. Donc vraiment j'étais très reconnaissante de sa posture de bienveillance et d'accompagnement au sens le plus noble du terme. Et puis du coup j'ai eu la sensation que pendant l'enregistrement on a su fédérer tout l'orchestre autour de ce projet. C'est un enregistrement qui reste un très très bon souvenir il y a un an maintenant, et vraiment je suis extrêmement reconnaissante de Déborah, de son enthousiasme, et puis de tous les musiciens de l'orchestre qui ont donné le meilleur de même.
Alors c'est vrai que grâce à vous, grâce à d'autres artistes, on découvre avec bonheur depuis quelques années ce répertoire féminin, le répertoire de compositrices. Mais c'est un répertoire qui semble en même temps encore, difficile de convaincre certaines institutions. Vous avez participé, vous avez signé cette tribune tout récemment, dénonçant le manque de parité de la programmation de la nouvelle saison de l'Opéra de Paris, puisqu'il n'y a pas une seule compositrice, alors que par exemple à l'Opéra Comique, il y aura la création d'une œuvre de Clara Olivares. Est-ce que c'est un combat encore très difficile à mener de convaincre ces grandes institutions qu'il y a un répertoire qui pourrait plaire en plus au public, qu'il suffit d'être ouvert?
Effectivement, je trouve ça très dommage que l'Opéra de Paris... mais il n'y a pas que l'Opéra de Paris,
oui,
mais manque parfois de curiosité. C'est-à-dire que quand bien même, souvent, on trouve les compositrices uniquement dans la création, alors qu'il y a beaucoup d'œuvres du passé qu'il faudrait inhumer. Après, à l'heure des charges, il y a un souci d'identification souvent de la part de ces structures, des directions de ces structures qui ne connaissent pas tout simplement quelles œuvres inhumer. Et je pense qu'il faut qu'ils s'adressent aux personnes qui savent, et elles existent. Je peux citer évidemment Héloïse Luzzatti, qui actuellement est aussi sur le front de Jeanne Leleu, avec notamment son ballet Nothéos. On a redécouvert Jeanne Leleu avec la boîte à pépites. On sait qu'elle a signé un ballet Nothéos qui a été joué à l'Opéra de Paris, qui a fait une belle carrière, quoi, ce ballet. Et qu'ils, comme ils l'ont déjà joué, vraiment, on aimerait qu'ils le rejouent, par exemple. Donc il y aurait plein d'œuvres comme ça qui sont identifiées et qui pourraient être facilement, je pense, redonnées. Sachez qu'en interne, il y a des gens qui se battent pour que ça bouge. Et donc voilà, j'espère que d'ici deux ans... deux saisons peut-être,
oui,
Nothéos.
Il faut quelques temps pour monter une production.
Oui, et puis il faut imaginer que l'Opéra de Paris, par exemple, la saison qui se dévoile la saison prochaine, en réalité, elle a été pensée il y a 2-3 ans, voire plus. Donc, il faut aussi avoir cette lucidité sur le délai de latence, quoi.
Alors, la musique de Marie-Jaël, son premier... Elle en a composé combien, des concertos?
Deux concertos pour piano et un pour violoncelle.
Voilà, donc son premier concerto que vous venez d'enregistrer, Célia Onetto-Bensaïd, vous le redonnerez en même temps que le premier concerto de Liszt, qui figure également dans cet enregistrement. Ce sera demain et vendredi en Bretagne, à Rennes, au couvent des Récollets et à Saint-Paul-de-Léon, avec l'Orchestre National de Bretagne et une jeune chef polonaise.
Oui. Anna Duc-Malm-Rose.
Voilà, bravo. J'ai pas osé, je vous ai laissé faire. Et puis vous participerez, on parlait d'Héloïse Luzzatti, à son festival Intemporel qui débute prochainement et qui aura lieu dans quelques lieux du Val d'Oise.
Oui.
Vous serez notamment le 24 mai en l'abbaye de Maubuisson. On pourra vous entendre également le 2 juin dans un récital de piano. Et puis vous donnerez le concert de clôture du festival, les concerts de clôture les 21 et 23 juin, autour de quelle compositrice ?
Alors, la compositrice un peu fil rouge de cette édition du festival est Héritage Troll, puisqu'il y a eu d'abord un coffret vocal à l'automne, et puis le 7 juin sort le coffret de musique de chambre qui lui est dédié par la boîte à pépites. Donc, moi, j'ai la chance de l'avoir enregistré et en musique de chambre et en piano solo. Donc, il y aura des œuvres de musique de chambre, notamment son quatuor avec piano. En piano solo, je vais jouer en récital son cycle incroyable de musique sur l'eau qui a une sorte de Gaspard de la nuit, vraiment, ce genre de dimension. Et puis au concert d'ouverture, on fait les deux féeries de Jeanne Vieux avec la chanteuse Marie Aupert en version réduite, en septuor avec piano, ce qui nous permet entre les deux féeries de jouer eh bien, le septuor avec piano de Rita Stroll. Non, c'est évidemment une grande fête autour de compositrices. Moi, pour mon récital sur l'eau, du 2 juin, eh bien, je joue ce cycle de Rita Stroll que je connais, mais le reste des pièces, je les monte spécialement. Donc, c'est beaucoup de travail en même temps, c'est vraiment passionnant. Et je monte d'ailleurs avec Gourmandise un nouveau cycle de Marie-Jaël, puisque je ne la quitte pas comme ça, qui s'appelle Les jours pluvieux et qui est trop joli, vraiment.
Parce que vous aviez déjà consacré un magnifique album à Marie-Jaël récemment. Et puis on vous retrouvera également aux côtés de Marie-Laure Garnier, fidèle partenaire. Vous serez avec elle au Sable d'Olonne le 8 juin ou encore le 14 juin au Festival d'Auvers-sur-Oise, également avec Olivia Gay. Beaucoup de dates à venir pour cet été. On va se quitter avec quelques notes tourbillonnantes cette fois-ci de Marie-Jaël, le final de son premier concerto pour piano. Merci beaucoup, Célia Netto Bensaïd.
Merci à vous.
Les dernières notes du premier concerto de Marie-Jaël avec Célia Netto Bensaïd au piano et l'Orchestre National Avignon-Provence dirigé par Déborah Waldman, un enregistrement tout juste publié par Nomad Music. Célia Netto Bensaïd qui jouera donc ce concerto de Marie-Jaël mais aussi le concerto de Liszt qui figure également au programme de cet album, le premier de Liszt, et cela demain et samedi soir avec l'Orchestre National de Bretagne. Ce sera à Rennes au couvent des Récollets et puis samedi à Saint-Paul-de-Léon.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Une escapade à Stockholm pour le retour des beaux jours ce soir.
Exactement, le retour des beaux et surtout des longs jours est très réjouissant pour nous tous, mais plus particulièrement encore pour ceux qui vivent dans les contrées du Nord. La musique et la danse sont alors une belle manière de célébrer ces journées qui se prolongent de plus en plus tard, très très tard. Direction Stockholm, comme vous l'avez dit, pour une escapade de printemps lyrique et chorégraphique proposée par l'Opéra Royal de la capitale suédoise. Alors demain vendredi, place à l'art lyrique pour commencer, avec une représentation de l'une des plus célèbres et légitimement célèbres pages du répertoire, puisqu'il s'agit de la Traviata de Verdi. Cette production suédoise permet d'entendre dans le brillant et le bouleversant rôle-titre une des étoiles du chant scandinave qu'on ne connaît pas forcément très bien chez nous, la soprano Ida Falk Vinland. Elle est née en Suède, elle a été formée dans son pays mais aussi à Londres. C'est une fidèle notamment du festival de Glyndebourne ou de l'opéra de Göteborg et c'est une artiste qui possède une voix, une présence dramatique très fine qui s'ajuste particulièrement au style baroque. C'est là où elle sert le plus régulièrement l'opéra mais aussi donc à l'opéra classique et romantique comme on va le voir demain soir. Et puis une fois que nous serons à Stockholm, le voyage n'est quand même pas très rapide, pourquoi ne pas rester encore un peu sur place et après un des musts de l'opéra, assister à un ballet toujours proposé par la saison de l'Opéra Royal.
Alors Emmanuel, quel est ce spectacle auquel vous nous invitez justement ?
Alors il est tout à fait dans la note de cette joie du retour de la lumière dans les contrées septentrionales. La tradition lors du printemps, c'est de donner une portée artistique à cet événement de la lumière avec des œuvres qui évoquent la belle saison et la douceur retrouvée. Et puis c'est parfaitement le cas avec le Songe d'une nuit d'été tiré de la fabuleuse comédie de Shakespeare qui ensuite a inspiré tellement de compositeurs, de Purcell à Mendelssohn et jusqu'à Benjamin Britten, c'est avec lui qu'on se séparera dans quelques secondes. En 2015, le chorégraphe suédois Alexander Ekman a signé un ballet plein de verve, de poésie, d'humour un peu déjanté parfois, prenant beaucoup de joyeuses libertés à partir de l'intrigue shakespearienne où le monde des fées et celui des humains se rencontrent au cours d'une nuit très très mouvementée au cœur de la forêt. Alors la valse des sentiments et des désirs, des quiproquos qui s'enchaînent à toute vitesse, la passion, la jalousie, tous ces ingrédients nourrissent une intrigue qui finit dans la liesse, après bien des aventures, des toutes petites et des beaucoup plus grandes. Et le chorégraphe a choisi une musique de Mikael Karlsson et non l'une des partitions classiques que nous évoquions tout à l'heure pour mettre en scène ce songe. Les costumes sont modernes mais assez intemporels, la pulsation est irrésistible, le plateau est envahi d'éléments végétaux, il y a des élans collectifs des plus insolents. C'est vraiment un spectacle à ne pas manquer, comme on dit de manière un peu cliché, mais là c'est vraiment le cas et tout à fait, j'y reviens, dans la tradition et cette vitalité du retour à la lumière dans les pays du Nord, donc place au songe d'une nuit d'été. If we shadows have offended, think but this, and all is mended. That you have but slumbered here, while these visions did appear. Gentles, do not reprehend. If you pardon, we will mend, else the puck, a liar call. So good night unto you all. Give me your hands, if we be friends, and Robin shall restore amends.
La fin du songe d'une nuit d'été, version Benjamin Britten, dirigée par Benjamin Britten, c'est son enregistrement, avec l'Orchestre Symphonique de Londres. Vous nous avez donné envie d'aller à Stockholm, profiter de ces délicieuses nuits d'été, Emmanuel. Merci pour ce voyage.
Merci Laure, à bientôt.
Et à la semaine prochaine, merci à Laetitia Montanari pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de deux jeunes et brillants musiciens, l'altiste Paul Zientara et le violoncelliste Maxime Quenesson. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.